Voici une question que beaucoup de gens prennent à la légère de nos jours. Qu'est-ce que Dieu pense de l'occultisme? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devrons prendre au sérieux aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Il y a un sérieux particulier à l'intérieur des questions que nous allons poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Je crois réellement qu'on est béni du fait que Dieu va se donner la peine de nous instruire au sujet de ces questions que voici. Est-ce que Dieu le sait quand nous ne sommes pas honnêtes envers lui? Qu'est-ce que Dieu pense de l'idolâtrie? Pourquoi Dieu répond-il non à certaines de nos prières? Quelles ont été les conséquences des péchés de Salomon? Est-ce que Dieu s'attend à ce que les croyants soutiennent ceux qui travaillent à temps plein dans son œuvre? Est-ce que l'occultisme est d'origine satanique? Ma prière à Dieu, c'est qu'il ouvre nos cœurs et fasse pénétrer profondément ce qu'il va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly concernant nos questions d'aujourd'hui. Prions. Ô Seigneur, on veut prendre au sérieux tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. On ne veut pas le prendre à la légère. Instruis-nous, fais-nous connaître les choses que tu veux qu'on change dans nos vies, afin qu'on te soit agréable. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu avait établi une année de relâche. À l'année de relâche, toutes les dettes d'une personne étaient annulées. Des commentateurs voient dans cette loi une façon de s'assurer de la distribution plus équitable des richesses d'un pays. Ensuite, nous avons vu les trois fêtes auxquelles devaient participer tous les hommes d'Israël, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Ces fêtes étaient des occasions pour le peuple de se réjouir dans son Dieu. Maintenant, au chapitre 17 et 18, nous voyons des lois qui concernent les rois, les prêtres ou sacrificateurs, ainsi que les prophètes. C'étaient là les trois principales fonctions chez la nation d'Israël, une nation vivant sous un régime théocratique établi par Dieu. Donc, Dieu a donné des règlements pour chaque poste. Débutons notre lecture, chers amis, du livre du Deutéronome, chapitre 17, verset 1er. « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu, ni bœuf, ni agneau, qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Dieu a dit que le premier-né de chaque créature lui appartenait. De plus, tout animal qu'on lui offrait devait être sans défaut et sans tache. Dans le livre du prophète Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu reproche à son peuple de le mépriser en lui offrant des animaux aveugles ou difformes. C'est à cause de ce péché qu'il jugeait son peuple. Sommes-nous honnêtes avec Dieu? Supposons qu'un cultivateur avait un excellent bœuf, une bête de prix qu'il désirait garder pour lui. Un matin, il inspecte son troupeau et découvre que l'animal est malade. Alors il dit à ses garçons de se dépêcher et de mettre la bête sur une charrette et de la conduire au temple pour l'offrir à Dieu. Peut-être que les voisins auraient été impressionnés par le fait que cet éleveur offrait son meilleur bœuf à Dieu. Ils auraient pensé que l'homme était généreux. Mais Dieu voyait dans le cœur de cet homme, et son sacrifice n'était pas acceptable. Ce sacrifice était sans valeur, car il exprimait un mépris de Dieu. Je pense que si un enquêteur s'arrêtait sur les relations d'affaires entre les croyants et Dieu, il porterait des accusations de fraude contre beaucoup de croyants. Si nous conduisions nos affaires avec des individus comme nous conduisons nos affaires avec Dieu, nous nous retrouverions en prison. Nous devrions nous examiner. Sommes-nous honnêtes avec Dieu dans notre gestion financière? Comprenons-nous bien. Dieu n'est pas pauvre. Il possède tout l'or et tout l'argent de cette planète. Tous les troupeaux de la terre lui appartiennent. Il n'a pas besoin qu'on lui offre un vieil animal malade. En fait, nous ne pouvons pas donner quoi que ce soit à Dieu. Alors, pourquoi demande-t-il qu'on apporte des offrandes? Il nous permet de le faire, parce que c'est une source de bénédiction pour notre âme, et nous ne sommes pas bénis lorsque nous nous comportons en avare envers Dieu. Par exemple, nous devrions examiner ce que nous donnons aux missions. De nombreuses personnes aujourd'hui donnent des objets et du linge usagés aux missions et aux missionnaires. Mes amis, Dieu ne nous demande pas nos restes, il veut notre meilleur. Versets 2 à 5. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Dieu a l'idolâtrie en horreur. Cette loi interdit clairement l'idolâtrie. De ce texte, ainsi que de d'autres textes, je me rends compte que la punition pour ne pas observer n'importe quel des 10 commandements est la mort. Le salaire du péché est la mort, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes tellement remplis d'amour et tellement civilisés que nous n'imposons plus la peine de mort. Cependant, notre société nord-américaine est devenue une société sans loi, à un degré jamais atteint auparavant. Elle est une des plus criminelles du monde. Parfois, ne vous demandez-vous pas si Dieu avait raison? Notez que Dieu mentionne l'idolâtrie qui était pratiquée couramment à cette époque. Les Grecs et les Orientaux avaient de nombreuses divinités associées au soleil, à la lune et aux étoiles. Dans la mythologie grecque, Apollo était le dieu du soleil et Artémis la déesse de la lune. Ces cultures vénéraient la création plutôt que le Créateur. Ceci a probablement commencé à la tour de Babel. Cette tour devait être un point de ralliement pour tous ceux qui s'opposaient à Dieu. Pourquoi? Dieu avait envoyé un déluge. Maintenant, ils allaient vénérer le soleil qui n'avait jamais exercé un tel jugement. Ils ignoraient que c'est le soleil qui contribuait le plus à la formation des nuages. L'idolâtrie et les sciences de l'époque étaient souvent dans l'erreur. Il est probable que c'est aussi vrai de notre science contemporaine. De nombreuses personnes pensent que l'on peut faire entièrement confiance aux connaissances et à la sagesse humaine. Bien, les érudits se sont souvent trompés dans le passé. Ils ont vénéré le soleil, la lune et les étoiles, pensant que ces corps célestes étaient amicaux à leur endroit. Ils les ont adorés plutôt que le Créateur qui les a faits. Versets 6 et 7. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera, la première sur lui, pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Dieu protégeait les innocents. Un homme ne pouvait pas se présenter aux autorités pour accuser d'idolâtrie un voisin qu'il n'aimait pas. Il fallait 2 témoins au plus pour condamner un homme. Dans notre société, quoique nous n'ayons plus la peine de mort, une personne peut être condamnée sur la déposition d'un seul témoin. Dieu a toujours exigé plusieurs témoins. C'est par grâce que Dieu répond non à certaines prières. Dans une théocratie, une nation gouvernée directement par Dieu, les gens présentaient leur cause à un sacrificateur, à un prêtre ou à un juge établi par Dieu. Dans une théocratie, il n'y aurait jamais dû avoir de roi. Plus tard, le peuple demandera un roi, et Dieu leur accordera leur requête. Il leur accorda ce qu'ils demandaient. Puis, il envoya le dépérissement dans leur âme. Le psaume 106, verset 15. Certaines traductions emploient le mot âme, d'autres le mot corps pour traduire le mot hébreu néfeste. Ce mot pourrait aussi bien référer au corps ou à l'âme. En fait, dans ce verset, il doit référer à la personne entière. Ce verset parlait de leur expérience dans le désert, mais c'est aussi une vérité universelle. Si Dieu nous accordait toutes nos requêtes, telles que présentées, ce serait la pire erreur au monde. Dans la grâce, Dieu nous répond souvent non. Il le fait pour moi, et je suis certain qu'il le fait pour vous. Cependant, Dieu a accordé un roi à Israël et il a donné des lois pour ce roi avant que le peuple entre dans la terre promise. Versets 8 à 11. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite, ni à gauche. Puisqu'aucune loi ne peut prévoir tous les cas possibles, lorsqu'il y avait un désaccord, la cause était portée devant les sacrificateurs ou les juges. La décision du tribunal était finale. Un refus d'obtempérer aux décisions des juges entraînait la peine de mort. Si quelque chose était indiqué clairement dans la parole de Dieu, il n'était pas nécessaire de consulter les sacrificateurs et les juges pour une décision. Si une question devait être tranchée par les sacrificateurs ou des juges, alors la décision devait être suivie. Dieu sait qu'un jour le peuple demandera un roi comme les nations environnantes. Dieu dit que le roi devra être un Israélite et non un étranger. Versets 16 et 17. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Il y eut des conséquences au péché de Salomon. Rappelez-vous, le roi Salomon n'a pas observé plusieurs de ses règles. Il a eu de nombreux chevaux. Il avait des étables très vastes à Megiddo. On en voit les ruines aujourd'hui. De plus, Megiddo n'était pas la seule ville où on avait aménagé des étables. Salomon est aussi allé vers l'Égypte, puisque c'est de là que provenaient les meilleurs chevaux. Il a donc traité avec cette nation. Ensuite, Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Ses épouses l'ont éventuellement éloigné de Dieu. Salomon n'a pas écouté la parole qui interdisait d'avoir de nombreuses épouses. Finalement, Salomon a accumulé trop d'or et trop d'argent. Dieu lui avait promis la richesse, mais il a pris le monopole du marché de l'or et de l'argent. David avait commencé à recueillir de l'or et de l'argent pour la construction du temple. Salomon a poursuivi le projet, mais ensuite il en a ramassé énormément pour lui-même. C'est ce qui a entraîné la division du royaume en deux. Après la mort de Salomon, 10 tribus, surtaxées, se sont révoltées contre le fils de Salomon et elles se sont séparées de Juda. Verset 18 à 20. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Le roi devait avoir sa propre copie de la loi et la lire quotidiennement. le roi devait connaître et appliquer la parole de Dieu pour sa vie. Maintenant, nous passons au chapitre 18 pour les lois régissant les sacrificateurs et un nouvel avertissement au sujet des pratiques sataniques. Deutéronome, chapitre 18, versets 1 et 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Nous devons supporter ceux qui enseignent la parole. Les sacrificateurs provenaient de la tribu de Lévi, et tous les Lévites étaient employés au service du temple. Ils n'ont pas eu d'héritage dans le pays, c'est-à-dire un territoire leur appartenant. L'Éternel était leur héritage. Nous avons ici la manière dont le Seigneur a pourvu aux besoins des Lévites. Notez que le Seigneur n'a pas donné d'instruction au sujet du salaire du roi, mais qu'il en a donné au sujet des revenus des prêtres. Le salaire d'un pasteur est toujours une question délicate dans une église ou une assemblée. En Israël, Dieu a réglé la question. Il leur a dit comment procéder pour rémunérer les Lévites. Versets 3 à 5. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton moût et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel ton Dieu a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Dieu établit un principe ici, et c'est toujours ce principe qu'il emploie pour faire son œuvre dans le monde. Dieu s'attend à ce que son peuple supporte ceux qui travaillent à temps plein dans son œuvre, afin que l'Évangile soit proclamé dans le monde. Nous n'avons pas à apporter du bœuf ou de l'agneau à l'Église, mais nous devons toujours appliquer le principe, pour voir à celui qui nous enseigne. Versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'occultisme est d'origine satanique. L'avertissement de ces versets est répété dans le Nouveau Testament. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Ceux qui pratiquent les sciences occultes s'attachent à des doctrines de démons. Les sciences occultes sont abondamment répandues de nos jours. Satan est vénéré et adoré de nos jours. Des personnes admettent ouvertement prier Satan. J'ai même déjà entendu quelqu'un dire qu'il tuerait Dieu s'il le pouvait. Oui, chers amis, nous en sommes rendus là. Les pratiques occultes ne sont ni une mode ni un jeu. Il y a une réalité derrière tout cela. Oui, chers amis, et par l'entremise de cette émission, je vous lance de sérieux avertissements. Des personnes très intelligentes et très instruites s'y adonnent. Donc il y a une réalité derrière les rituels sataniques. Cependant, Dieu nous avertit au sujet de l'occultisme. À ses yeux, ce sont des pratiques abominables. L'astrologie est encore très populaire aujourd'hui. En plus des signes du zodiaque traditionnel, nous avons l'astrologie chinoise. Nous pensons peut-être que ce n'est pas dangereux, parce que c'est une pseudo-science bien connue depuis de nombreuses décennies et que sa popularité n'est pas récente. Pourtant, il y a des personnes qui mettent davantage leur confiance dans l'astrologie que dans la parole de Dieu. La plupart des journaux et des revues publient des prédictions astrologiques. De nombreux médias en font toujours la promotion, en plus de toutes les autres pratiques occultes qui augmentent en popularité. Mes amis, l'astrologie est une abomination aux yeux de l'Éternel. Ne me reprochez pas de dire cela. C'est la Bible qui le dit, et non Régent Joly. Pourquoi est-ce une abomination? Parce que l'astrologie détourne les gens de Dieu et les entraîne dans le satanisme. Le monde des démons est réel. Les anges déchus et le monde des esprits existent. Les gens sont curieux au sujet du monde des esprits et intrigués au sujet de celui-ci. Le monde satanique existe et il est heureux de communiquer avec ceux qui le cherchent. Un enfant de Dieu ne devrait jamais toucher aux pratiques occultes ainsi qu'à l'astrologie. Quiconque flirte de ce côté a une foi faible et n'a pas vraiment mis toute sa confiance en Jésus-Christ. Cette personne s'éloigne de Dieu et de sa parole. Plusieurs moyens sont utilisés aujourd'hui pour séduire non seulement les adultes, mais aussi les enfants. De plus en plus, nous voyons des films et des livres à la mode dans lesquels nous pouvons y retrouver des éléments de pratique occulte, tels que la magie, la sorcellerie. Ce sont des moyens que ces jeunes prennent pour épater leurs amis, pour aussi devenir les rois et reines de leur école. Il n'est pas normal pour des enfants de demander à Noël des tables de divination, des jeux de tarot, ou bien des livres de magie blanche. Chers amis, en permettant cela, nos enfants sont livrés entre les mains des démons. Dieu a donné des avertissements au sujet de l'occultisme, et les avertissements de Dieu se sont toujours montrés justifiés dans le passé. Il est préférable de tenir compte des avertissements de Dieu. Dieu a jugé les nations qui pratiquaient l'occultisme. C'est pourquoi il a donné leur pays à Israël. Israël a été appelé à témoigner du vrai Dieu, à croire en celui seul qui peut les délivrer de ces puissances des ténèbres. L'apôtre Jacques a écrit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent, car ils savent, eux, que Jésus est venu pour leur perdition. Jésus les a vaincus à la croix. » Et toi, si tu places ta confiance en lui seul, tu auras la victoire sur cet ennemi. Non visible, mais bien réel. Accepte Christ comme sauveur et seigneur de ton existence, et ils seront forcés de s'éloigner de toi. L'apôtre Jean a écrit dans son épître, 1 Épître chapitre 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Et cette victoire peut devenir tienne, à une condition, que tu te détournes du mal, de la pratique du péché, et que tu te tournes vers Jésus, afin que tu puisses obtenir la victoire. Repens-toi. Prochaine émission, Deutéronome, chapitre 18, verset 15, à chapitre 19, verset 21.
Merci beaucoup, Régent. Eh bien, c'est très clair. Dieu a l'idolâtrie en horreur, et l'occultisme est d'origine satanique. C'est pourquoi Dieu a ses pratiques en horreur. Ça me rappelle, un an ou deux avant ma conversion, il y avait un groupe de Québécois que j'aimais beaucoup, des musiciens. Leur musique surpassait ce que nous avions entendu jusqu'à ce moment-là au Québec. Et puis, leur style n'était pas des plus populaires, parce que ça touchait au jazz et ce n'était pas apprécié par beaucoup de gens à cette époque-là. Il faut dire qu'on n'avait pas encore eu les festivals de jazz et c'était donc considéré comme une musique assez bizarre pour la majorité des gens. Toujours est-il qu'en étant ami avec quelques-uns des membres de ce groupe, Ils m'invitaient à leur session d'enregistrement qui avait lieu la nuit dans un studio de Montréal. Ils enregistraient la nuit parce que ça coûtait moins cher de cette façon-là. Et quand les sessions se terminaient, vers 4 heures du matin, le groupe m'invitait à faire un tour chez l'un des membres. Et je ne comprenais pas pourquoi, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'y aller. Ou bien j'avais une émission de télé à faire le lendemain, ou bien je me sentais soudain trop fatiguée, et je m'en allais chez moi. Plus tard, quelques années après ma conversion, j'ai appris que lorsque les membres du groupe se réunissaient après ces sessions, ils se donnaient à des pratiques occultes que je ne décrirai pas. Mais je peux dire que ça me fait frissonner quand je pense à ce qu'ils faisaient. Mais aussi, je suis bien reconnaissante envers Dieu, puisque je réalise maintenant que c'est Lui qui arrangeait les circonstances pour que je ne puisse pas me rendre à ces réunions. Je crois vraiment que ça m'aurait traumatisée à cause de ma sensibilité, de ma fragilité et de l'état de mon âme à cette époque-là. Je ne le savais pas, mais Dieu veillait sur moi. Et j'en suis très, très reconnaissante. Merci, Seigneur. Je suis bien contente que Régent ait mentionné les films pour enfants qui touchent à la magie et à la sorcellerie. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on réalise à quel point ces films peuvent inculquer de fausses valeurs à nos enfants, pouvant les entraîner éventuellement à la catastrophe. Oh, que Dieu protège notre beau Québec contre toutes ces choses qui nous éloignent des vérités bibliques qui seules peuvent satisfaire l'être humain. Mon ami, est-ce que tu vis selon les principes bibliques? Connais-tu la parole de Dieu? Sinon, je t'encourage à ouvrir ta Bible chaque jour. Et si tu n'en as pas, ça vaut vraiment la peine que tu t'en procures une. D'ailleurs, c'est un très bon outil pour t'aider à suivre le bon enseignement qu'on reçoit à chacune de nos émissions, alors que Régent nous conduit à travers la Bible. Et si tu es de ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas la Bible, eh bien, je peux te dire que ça a déjà été mon cas. Mais quand je me suis convertie au Seigneur, le voile s'est ôté de sur mon cœur. J'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Et c'est Lui qui m'aide à comprendre tout ce que Dieu veut m'enseigner dans les Saintes Écritures. Mon ami, toi aussi tu peux comprendre. T'as pas besoin d'être un théologien. T'as juste besoin de naître de nouveau, de laisser entrer l'Esprit de Dieu en toi, par la foi en Jésus, ce Jésus merveilleux qui est allé mourir sur la croix pour toi, qui a donné sa vie pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Accepte Jésus aujourd'hui comme ton Sauveur, comme ton Seigneur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Régent?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.